1 Corinthiens 1:1. Paul, qui a été appelé par la volonté de Dieu à être un apôtre de Jésus-Christ et le frère Sosthène, salue l'Église de Dieu établie à Corinthe, ceux qui ont été purifiés de leurs péchés dans l'union avec Jésus-Christ et qui ont été appelés à faire partie du peuple saint, ainsi que tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, font appel à notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur comme le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. En effet, vous avez été comblés en lui dans tous les domaines, en particulier celui de la parole et celui de la connaissance, dans la mesure même où la vérité dont Christ est le témoin a été fermement établie chez vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de la grâce divine, tandis que vous attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Lui-même, d'ailleurs, vous rendra fort jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu, qui vous a appelé à être en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. Prions un instant. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, nous aimons ta parole. Nous te prions pour que son message, ce matin encore, touche notre cœur. Que ton esprit nous conduise dans ce moment de méditation, de réflexion, pour que nous puissions avancer sur le chemin de la foi, du service, conformément à ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes au début d'une lettre, vous le voyez. Même si nous n'avons plus tellement aujourd'hui l'habitude de recevoir des lettres, nous savons que le Nouveau Testament se présente à nous en partie significative, sous la forme de lettres. Et je me dis qu'il y a peut-être des gens parmi vous, parmi nous, parmi les jeunes générations, qui n'ont jamais reçu de lettres. Je l'ai constaté en parlant avec mon fils cadet, qui était Corentin, qui était très surpris de réaliser que sa mère et moi, eh bien, avant notre mariage, nous envoyons des lettres très régulièrement, écrites à la main, voilà, postées avec un timbre. Vous ne voyez pas du tout à quoi ça pouvait ressembler ce genre de pratique, des lettres personnelles, je veux dire. Mais à l'époque du Nouveau Testament, voilà, ça se passait comme ça. On écrivait des lettres à la main, ces lettres, on les envoyait par porteur en quelque sorte, et puis les chrétiens, les membres des églises, certainement, étaient heureux de recevoir une lettre, en général, en tout cas, une lettre de l'apôtre Paul, avec des nouvelles d'autres églises, avec des enseignements aussi, des choses importantes pour leur vie de foi et pour leur vie d'église. Et nous sommes aujourd'hui au bénéfice de ces lettres, parce qu'elles sont parole de Dieu, et elles sont donc nécessaires à notre vie et à notre enracinement dans la foi. Le début d'une lettre, souvent, c'est un moment important du texte. Comme premier contact entre le lecteur et le message de la lettre, eh bien, le début du texte dit des choses qui vont servir pour la suite. C'est un petit peu comme le premier contact entre deux personnes, hein, vous savez, cette première impression. J'ai tout de suite eu une bonne impression. Ça a été le coup de foudre. Premier contact significatif donc entre une lettre, un message de l'apôtre Paul et des lecteurs, des destinataires de la lettre, c'est-à-dire une église. La première lettre, la première épître aux Corinthiens, s'ouvre sur une belle description de l'église de Corinthe, une église du 1er siècle après Jésus-Christ, une église de Grèce. Et pour nous, chrétiens du 21e siècle, eh bien, ce premier contact est aussi l'occasion de découvrir non seulement l'église de Corinthe, mais aussi l'église en général, l'église telle qu'elle apparaît dans le Nouveau Testament. Lorsque nous, lecteurs du 21e siècle, ouvrons la Bible à cet endroit, lisons le texte que nous avons lu ce matin, eh bien c'est un petit peu comme si nous poussions la porte de l'église de Corinthe, une église qui se réunissait d'ailleurs dans une maison. Et alors, lorsque nous ouvrons la porte de l'église de Corinthe, que voyons-nous? Qu'avez-vous vu, chers amis, ce matin quand vous avez poussé la porte de cette salle de culte? Vous êtes entré dans la cour de l'église, vous avez poussé ou tiré, je pense que c'est plutôt tiré, hein, la porte d'entrée. Vous avez salué notre sympathique équipe d'accueil. Vous avez traversé le hall d'entrée. Vous avez ouvert la porte. Vous avez regardé à droite, à gauche. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu ce matin? Eh bien, voilà ce que nous voyons lorsque nous ouvrons la porte de l'église de Corinthe, guidée par la lettre de l'apôtre Paul. Je résume en quelques mots. Nous voyons une église composée de chrétiens qui ont été purifiés de leurs péchés, qui sont unis à Jésus-Christ, qui ont été appelés par Dieu, qui appartiennent à Dieu et qui font partie du peuple de Dieu. Voilà un regard original. Voilà le regard de quelqu'un qui voit les choses sous un autre angle, qui regarde la même chose que tout le monde, mais qui le voit peut-être pas tout à fait ce que tout le monde voit. Voilà le regard de quelqu'un qui nous aide à voir les choses telles que Dieu les voit. Ce qui est frappant, je trouve, c'est que une fois la porte franchie, lorsque nous tournons les pages de la première lettre aux Corinthiens, lorsque nous avançons dans les rangs, si vous voulez, lorsque nous cherchons notre place dans cette église de Corinthe, eh bien, nous découvrons dans cette église de Corinthe, et elle est bien connue pour cela, des situations tendues, de l'orgueil, la valorisation de certains dons au détriment des autres, des comportements plus que douteux, bref, des choses peu glorieuses. L'église de Corinthe est connue pour cela. Et l'apôtre Paul ne va pas se priver d'en parler, il va le leur dire, il va donner son avis sur ses comportements. Mais lorsqu'il regarde l'église de Corinthe dans son ensemble, en ouvrant la porte, eh bien, il voit des chrétiens purifiés de leurs péchés, unis à Jésus-Christ, appelés par Dieu pour lui appartenir. Et c'est pourtant bien de la même église qu'il s'agit. Si l'apôtre Paul commence sa lettre par ce portrait, des chrétiens purifiés de leurs péchés, unis à Jésus-Christ, appelés par Dieu à lui appartenir, c'est probablement parce que les Corinthiens avaient une vision déformée de l'église. Ils ne voyaient pas l'église comme Dieu la voit, et ils ne vivaient pas en conséquence de cette vision. Vous savez, ils voyaient l'église un petit peu comme quand on regarde à travers ces vieilles vitres à l'ancienne, hein, dont le verre a été mal travaillé. On voit, oui, mais c'est flou, les choses ne sont pas très claires, il y a des traits qui sont déformés, ce n'est pas net. Et je me dis que peut-être que nous aussi, nous avons parfois une vision déformée de l'église. Alors l'apôtre Paul commence par donner cette image d'ensemble de ce qu'est l'Église. J'aimerais que nous puissions ce matin, chers amis, laisser la parole de Dieu convertir notre regard. Et plus précisément convertir, c'est-à-dire changer le regard que nous portons sur l'Église. Et pour que ce regard puisse être changé, eh bien, il faut tout d'abord noter que Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, vous l'avez entendu à la lecture, ça rend presque la lecture un peu difficile. Dieu et le Seigneur Jésus-Christ sont omniprésents dans les premiers versets de cette première épître aux Corinthiens. Si vous voulez, ce n'est pas l'Église est comme ceci, l'Église est comme cela. C'est Dieu et ceci, le Seigneur fait cela. Ce que dit l'apôtre Paul, ce n'est pas l'Église est ceci, l'Église est cela. Il dit Dieu appelle, Dieu donne, Dieu agit, et c'est à partir de là qu'il dessine son portrait de l'Église. Dieu appelle. Les chrétiens de Corinthe ont été appelés par Dieu. Ils font partie maintenant d'un mouvement universel. Ils ne sont pas les seuls, mais d'autres sont avec eux dans le monde entier. Je paraphrase ce que dit l'apôtre Paul. Tous ceux qui ont été appelés par Dieu forment un peuple immense, présent partout, le peuple de l'Alliance, un peuple consacré au service de Dieu. Voilà la première chose que nous découvrons lorsque nous poussons la porte de l'Église, guidée par la première lettre aux Corinthiens. L'Église de Corinthe est une église de taille moyenne, qui se réunit dans une maison, qui n'est pas une de ces méga-églises de Séoul en Corée du Sud, ou des Philippines, ou d'ailleurs d'aujourd'hui, hein, mais qui est un petit groupe, un groupe moyen, réuni dans la maison d'un particulier. Cette église, pourtant, a été appelée par Dieu pour lui appartenir et le servir, c'est-à-dire pour jouer un rôle important dans l'Église, dans l'histoire telle que Dieu la conçoit. Parce que c'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est Dieu qui écrit le scénario de l'histoire. C'est Dieu qui attribue les rôles de l'histoire. Eh bien, les chrétiens de Corinthe, oui, ont leur place dans cette histoire. Voilà ce que dit l'apôtre Paul de l'Église de Corinthe. Voilà ce qu'il nous donne à voir lorsqu'il nous amène à pousser les portes de cette église de Corinthe. C'est important de bien comprendre le regard que le Seigneur porte sur l'église. C'est important parce que ça donne une dimension autre, une dimension plus large à ce que nous faisons jour après jour, dimanche après dimanche. Nos actes, nos activités, nos projets, nos rassemblements, nos réflexions, nos prières ont une portée qui dépasse de loin le simple champ de notre petite vie individuelle ou même de notre petite vie collective. La marche de l'Église, l'obéissance de l'Église au Seigneur, sa fidélité à la parole du Seigneur, tout cela, c'est important parce que ça fait partie du projet global de Dieu, du projet universel de Dieu. J'avoue que lorsque je rentre dans l'église le dimanche matin ou pour une réunion, j'ai parfois du mal à réaliser que l'église a une telle place dans le plan de Dieu. Mais je pense que le fait de se le dire, de se l'entendre dire et d'en être conscient transforme notre façon de vivre l'église. Imaginez un instant deux situations différentes, opposées. Première situation, je suis sur une estrade comme celle-ci, au milieu d'un groupe de chanteurs, de musiciens, on va dire d'une chorale, d'un orchestre. Je connais les chants, j'ai appris mes partitions, j'ai travaillé, j'ai répété, j'ai ma place dans la chorale et je le sais. Je sais que si je ne chante pas, il va manquer un petit quelque chose dans la prestation, il y aura un vide. Mais je sais que je suis là pour chanter, j'ai envie de chanter et je sais que ma participation va enrichir la prestation d'ensemble, l'ensemble du concert. Deuxième situation, je passe par là, je vois une porte, j'ouvre la porte, j'entre dans une pièce sombre, je me retrouve sur une estrade, tout à coup les projecteurs s'allument, les voix s'élèvent, la musique commence, je suis là par hasard, je suis ébloui par les projecteurs, j'ai simplement poussé une porte, je suis entré, je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne connais ni les chants ni les gens qui chantent, je ne comprends pas du tout le sens de ce qui est en train de se passer. Comprendre le projet global de Dieu peut nous permettre de vivre notre vie, y compris notre vie d'église, d'une autre manière. Savoir pourquoi nous sommes là donne du sens à ce que nous vivons tous les jours, y compris le dimanche et les jours d'activité d'église. Chers amis, s'il n'y avait pas ce sens donné par le Nouveau Testament, nous serions là tous en train de nous agiter, mais pourquoi faire? Et comment ferions-nous face au découragement? Comment ferions-nous face aux questions, aux déceptions, aux inquiétudes? S'il n'y avait pas cette certitude, ce sens, nous avons été purifiés par nos péchés, unis à Jésus-Christ, appelés par Dieu pour lui appartenir. Au-delà du découragement, au-delà des questions sans réponse, au-delà des préoccupations qui agitent nos pensées, regarder autour de nous et comprendre que Dieu nous a appelés à faire partie de son peuple, à vivre dans l'union avec Jésus-Christ, cela peut nous amener à voir les choses tout à fait autrement. Dieu appelle. Deuxième chose, Dieu donne. Tout vient de Dieu. Et là, vous notez le petit clin d'œil de l'apôtre Paul, l'humour du Nouveau Testament. Petit clin d'œil de Paul pour rappeler aux chrétiens de Corinthe qu'ils ont tort de se prendre au sérieux comme ils le font. J'ai évoqué au début la réputation de l'église de Corinthe, l'orgueil de certains Corinthiens, la valorisation de certains dons et de certaines personnes au détriment des autres. L'église de Corinthe est connue pour cela, mais c'est Dieu qui donne. Ce que vous avez, vous le devez à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite histoire qu'on raconte à propos d'un milliardaire du passé, mettons Rothschild, mais peu importe, quelqu'un de très riche. Donc Rothschild parle de ses débuts, de la façon dont il a commencé. Je vous ai peut-être déjà raconté cette blague. C'est une blague, c'est pas une histoire vraie. Il raconte, quand je suis arrivé à New York, j'avais $5 en poche. Impressionnant, quand on sait ce à quoi il est arrivé ensuite. $5 en poche. Et il ajoute, donc j'avais ces $5 en poche, et ensuite, j'ai fait un héritage. Je vous laisse le temps. Ok. Bon, j'ai pas. Mon fils me dit que j'ai un humour un peu particulier. Il appelle ça un vieil humour. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Mais Paul rappelle aux Corinthiens, chers amis, qu'ils sont des héritiers. Ils sont des héritiers. que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. Les dons spirituels dont l'Église est si fière, dont elle se vante, ils viennent de Dieu. Ce sont des dons de grâce, c'est-à-dire par définition des cadeaux immérités. Tout ce que l'Église a, elle l'a reçu de Dieu. Tout ce que l'Église fait, elle peut le faire parce que Dieu lui a donné les outils nécessaires. Tout ce que l'Église construit, elle le construit sur le fondement du Seigneur Jésus-Christ et de sa parole. Oui, l'Église de Corinthe avait des qualités. On connaît bien ses défauts, mais il ne faut pas oublier ses qualités. Malheureusement, il semble que même certaines de ses qualités étaient devenues des défauts parce qu'elles étaient mal utilisées. Mais Paul ne le nie pas, il y a des qualités à Corinthe. Mais il ajoute ce petit rappel légèrement ironique. Oui, mais tout vient de Dieu. Vous avez des dons, des capacités, de l'énergie, mais c'est parce que Dieu les a déversés sur vous. Donc pas d'orgueil, pas de jalousie, pas d'autopromotion. Dieu donne. C'est ce qui fait que nous pouvons regarder l'Église avec reconnaissance. Dieu donne. Et l'apôtre Paul exprime cette reconnaissance, c'est une prière, hein, ce que nous avons lu, c'est une prière de louange. Paul dit merci à Dieu pour l'Église de Corinthe. Malgré tout ce qu'il va dire après, malgré les critiques qu'il va formuler et qui sont assez acides, Paul est reconnaissant. Malgré les difficultés présentes, il voit l'Église comme l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans le monde. Il y discerne dans l'Église les dons que Dieu y a mis. Je le sais, l'Église n'est pas toujours le lieu où l'on rencontre cette foi qui déplace les montagnes, cette profondeur spirituelle sans fond, cette communion fraternelle irréprochable. Dans l'Église, il y a parfois des faiblesses, il y a des hésitations, il y a de la superficialité, oui. Mais ce qui permet de dire à l'apôtre Paul « Merci Seigneur pour l'Église de Corinthe », eh bien c'est sa conviction que tout vient de Dieu. Dieu donne. Le pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer disait « L'Église n'est pas un idéal à réaliser, elle est une réalité créée par Dieu à laquelle nous sommes invités à participer. Elle est une réalité créée par Dieu à laquelle nous sommes invités à participer. Nous ne sommes pas créateurs, nous sommes participants. Nous recevons ce que Dieu donne. Nous sommes les utilisateurs des outils de Dieu. Nous bénéficions de ses bénédictions. » Alors est-ce que le regard que nous portons sur l'Église est un regard de reconnaissance? Non pas de reconnaissance parce que tout fonctionne bien, mais de reconnaissance parce que Dieu donne et parce que nous bénéficions de sa grâce et de la générosité de ses dons. Dieu appelle, Dieu donne, et troisième point, Dieu agit. Les versets que nous avons lus évoquent l'avenir de l'Église. Vous attendez, dit l'apôtre Paul au verset 7, vous attendez le moment où le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. L'Église a un avenir, mais elle a aussi un présent. Il semble que les Corinthiens vivaient déjà dans l'avenir, comme certains vivent dans le passé parfois. Mais dans ce texte, Paul ne parle pas spécialement du passé, il parle du présent et de l'avenir. Et que dit-il? Il dit, dans le temps présent, que ce soit à l'époque de Corinthe ou aujourd'hui, Dieu soutient son Église et la fortifie. Et il le fera jusqu'au dernier jour parce que Dieu est fidèle. Dans le temps présent, Dieu prépare son Église et la sanctifie. Il renforce les liens qui l'unissent à Jésus-Christ et qui unissent ses membres les uns aux autres. Et il le fera jusqu'au dernier jour parce que Dieu est fidèle. Dieu agit. Notre regard nous permet-il de voir l'action de Dieu dans l'Église? Comment Dieu agit-il? Réfléchissez-y un instant. L'action de Dieu dans l'Église, aujourd'hui. Pour vous aider, si vous ne voyez pas, si c'est le vide, pensez à nos enfants, je donne quelques exemples, parmi d'autres à nos jeunes, flambeaux, pensez baptême, pensez culte de consécration de notre pasteur, pensez aux bâtiments dans lesquels nous sommes, à la musique, à la technique. Pensez aux activités régulières, pensez aux activités exceptionnelles, aux divers services, pensez aux témoignages. Réfléchissez, regardez autour de vous, quelle est l'action de Dieu dans l'Église? Voyons-nous l'action de Dieu nous joignons-nous à l'action de Dieu. Et encore une fois, comprenez bien l'équilibre de la parole de Dieu. Perfection de l'Église au dernier jour. Fidélité de Dieu malgré l'imperfection de l'Église en attendant ce dernier jour. Dieu agit. Je résume. Que voyons-nous lorsque nous regardons autour de nous? Allez, faites juste un petit tour. Bougez la tête à droite, à gauche. Que voyons-nous lorsque nous regardons autour de nous? Notre regard est-il découragé, perplexe? Sommes-nous un petit peu perdus? Nous demandons-nous pourquoi nous sommes là, si ça sert à quelque chose, peut-être à cause des échecs, peut-être à cause des luttes, peut-être à cause des montagnes à déplacer, à cause des inquiétudes. Eh bien, chers amis, nous regarderons l'Église différemment et avec espérance, si nous avons en tête le sens du projet global pour lequel Dieu nous a appelés, et si nous prenons conscience de notre place dans ce projet. Dieu appelle. Ensuite, lorsque nous regardons l'Église, sommes-nous, j'ose le dire, déçus de nos frères et sœurs dans la foi? Il y a-t-il dans notre regard parfois un léger soupçon d'orgueil, comme chez les Corinthiens, un peu d'envie, peut-être un peu de jalousie, d'amertume, à cause de ce que nous faisons ou de ce que les autres font, à cause de ce que nous savons faire ou de ce que nous ne savons pas faire, à cause de nos victoires, à cause de nos échecs? Chers amis, nous regarderons l'Église différemment et avec reconnaissance, si nous avons la conviction que tout vient de Dieu. Dieu donne. Enfin, lorsque nous regardons l'Église, notre regard est-il indifférent, sceptique, pessimiste? Peut-être à cause des questions qui reviennent régulièrement, des choses qui ne changent pas dans l'Église comme dans ma vie, une impression de ne pas être concerné finalement. Nous regarderons l'Église différemment et en y voyant de nouvelles possibilités, si nous réalisons quel est le Dieu, le lieu, oui, le lieu où Dieu agit maintenant, dans le temps présent. Alors je dis merci Seigneur pour l'Église, merci Seigneur pour ton Église. C'est ce que nous avons lu, hein, cette lettre, ce début de lettre, c'est une prière de reconnaissance, de louange. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as appelé cette Église. Merci parce que c'est toi qui lui donnes ce dont elle a besoin. Merci parce qu'elle est ton œuvre, le lieu de ton action, le lieu où tu agis. Et que l'œuvre que tu as commencée, Seigneur, eh bien, tu la mèneras jusqu'au bout. Amen.